Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R. Dubois et c'est l'heure de l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en Dubois. Au studio, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Olivier de Belloir. Bonjour.
Bonjour.
Olivier de Belloir, vous êtes artiste de cirque et peut-être aussi de théâtre et bien d'autres choses également. Et vous êtes ici pour nous parler de représentations que vous allez donner donc ce samedi 14 et dimanche 15 octobre avec un spectacle issu de la compagnie d'un ours dont vous faites partie et qui s'intitule donc Une pelle. Est-ce qu'une pelle, d'ailleurs, est-ce que c'est un terme utilisé dans le monde du funambulisme ?
Alors, à ma connaissance, non. En général, dans le monde du funambulisme, on parle rarement de la pelle, justement, en question. Peut-être par superstition ou par tabou. Donc, c'est un petit... pas un pied de nez, mais c'est une manière d'introduire un peu ça. Après, bien sûr, il y a le double sens. Enfin, il y a plusieurs sens à une pelle. Il y a plusieurs sens. Il y a prendre une pelle, rouler une pelle. Et c'est aussi un objet avec lequel on creuse. C'est un objet dans lequel on se plante dans le sol. Et pour moi, le funambulisme, donc, qui va se passer samedi et dimanche, donc le funambulisme est une discipline très terrienne. Il faut s'ancrer dans le sol pour pouvoir tenir sur un fil. Ce n'est pas du tout quelque chose avec lequel on décolle, justement. Voilà. Et petite précision, le spectacle joue au Martouré.
Vous arriverez donc la veille de cette date du 14, vous installerez certainement les structures avec des pinces à enfoncer. Est-ce que ça en lui-même, c'est un spectacle ?
Alors, en fait, oui, c'est un montage assez conséquent. La structure mesure 70 mètres de long. On a un mât qui monte à 10 mètres de haut, ça part du sol et la marche en elle-même de funambule mesure 48 mètres de long. C'est pour ça qu'on s'installe au Martouré. C'était Dandy, le terrain le plus propice à nous accueillir et ils ont gentiment accepté. Et effectivement, il y a 25-30 pinces plantées dans le sol pour tenir notre structure. Il y a 3,5 tonnes de tension dans le fil. Donc oui, le montage représente quelque chose. Nous, on plante notre campement en tente autour de la structure, ça fait partie du projet. C'est une pelle, c'est une expédition de funambule. On s'attaque à ce fil comme on attaquerait une montagne, une expédition. C'est d'ailleurs le propos du spectacle. Le spectacle consiste à parler de ce qui se passe avant, de ce que ça nous fait avant, nos émotions, nos sensations, nos fantasmes, avec nos digressions aussi, ce qui se passe pendant, parce qu'on parle au micro pendant cette ascension funambule. Je prends quelqu'un, Anthony Brerec, qui est un ami comédien, qui s'est entraîné pour ça, mais qui avant n'avait jamais fait de funambule, pour travailler sur la fragilité de ça. Et on fait cette ascension, et après on raconte ce qui s'est passé. C'est tout aussi simple que ça, et d'où, pardon, je reviens sur les tentes, c'est vraiment une expédition, notre élan part depuis qu'on s'installe sur le terrain, jusqu'à après le spectacle, jusqu'au lendemain quand on démonte, on est en tente autour de la structure et c'est une expédition à part entière pour nous. Il y a un feu de camp pendant le spectacle pour accueillir les gens, pour placer les gens. Voilà.
Effectivement, le spectacle de samedi commence à 17h30, ça commence à être le crépuscule. Il y a cette ambiance également. Vous pouvez justement agir même en pleine nuit.
Alors, oui, bien sûr, en funambule, on peut agir en pleine nuit. Sur ce spectacle, on a décidé de ne pas agir en pleine nuit parce que c'est une ascension funambule. Le spectacle est une ascension funambule, mais ce n'est pas l'endroit qu'on défend. C'est-à-dire, c'est un spectacle de paysage où le but de ce spectacle, c'est de créer notre paysage sous les yeux des gens. Et on joue, on tente de jouer avec tout le paysage qui nous entoure, dont le fil. Et avec cette ascension funambule, avec cette montagne, avec qui va devenir en fait ce qu'on veut à travers plein de fantasmes. Mais en tout cas, on tente de prendre tout l'espace et de s'inscrire dans un espace. Et c'est pour ça qu'on ne joue pas de nuit, parce qu'on perdrait le paysage, en tout cas le paysage que nous, on tente de créer sous les yeux des gens. Voilà.
Cette ascension sur ce fil, quel est ce sentiment une fois positionné dessus? Est-ce que ça devient peut-être par habitude un automatisme ou il y a toujours une appréhension du vide?
Alors, l'appréhension du vide est toujours là, toujours, toujours. Il y a toujours la peur qui s'installe, dont on parle dans le spectacle. C'est assez évident à dire quand on est à 8, 9, 10 mètres de haut sans sécurité, parce que c'est le cas. On a toujours la peur. Après, tout le travail, c'est qu'elles ne prennent pas tout le paysage, justement. Et la routine, non, ne s'installe pas, en tout cas, pas dans ma manière de travailler, pas dans mes chez-moi, moi, en tout cas. Je fais en sorte, depuis 30 ans que je travaille le cirque, que ce soit quelque chose qui se creuse à chaque fois, qui se ramifie, d'où le nom Une Pelle aussi. C'est-à-dire, je tente de creuser, et de ne jamais être dans la répétition, justement. De ne pas être dans l'improvisation, ce n'est pas quelque chose qui fait partie aussi non plus de mon champ lexical, mais plutôt de laisser place au spontané, parce que je creuse tout le temps, même devant les gens, que ce soit en répétition ou devant les gens. Donc non, je n'ai pas la sensation de faire installer la routine. Voilà.
Pour cela, et tenir en équilibre, il y a cette perche de 17 kilos, hein, j'ai lu ça. Son poids est important pour son principe d'utilisation.
Alors oui, le balancier, la technique du funambule, alors il y a plusieurs définitions, pardon, je reviens en amont, là, il y a plusieurs définitions du funambule. Celle que je préfère, moi, c'est le travail avec balancier, c'est-à-dire avec cette longue perche qui peut mesurer de 6 mètres à peut-être 15 mètres de long, ça dépend des funambules. Elle peut peser de 9 kilos à 20, 23, 25, j'en connais qui font avec plus. Après, c'est une histoire de bras aussi. Mais de toute évidence, cette perche permet de tenir sur le fil comme si on avait, une fois qu'on a la technique, c'est comme si on avait une rambarde dans les mains de fixe. Ça reste dangereux parce qu'il ne faut jamais s'oublier, mais ça, une fois que le corps devient transitif entre le fil, voire le sol et la perche, en fait, on n'a rien à faire, c'est juste un empilement. Et c'est toute cette... Ce travail, pour moi, le travail de funambule est un travail de déconstruction, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut se fabriquer un équilibre, là où en fait, il n'y a rien à faire, il y a juste un lâcher, un état d'être à trouver, et il n'y a pas de choses à chercher autre qu'être transitif. Être transitif dans le corps et dans la tentative de ce spectacle, dans les voix aussi. Voilà.
L'importance, si j'ai bien compris, c'est ce câble tendu qui doit être stable et quasi immobile.
Oui, après, il n'est jamais vraiment immobile parce qu'il se trouve que nos petites peurs, nos tremblements, nos faiblesses le font toujours un peu trembler. Des fois, il y a un petit peu de vent. On est aussi deux. On est deux avec mon partenaire de marche, Anthony, qui me tient les épaules, qui marche derrière moi. Et il y a toujours des imprévus. C'est inévitable. L'imprévu fait partie des paramètres de base, de la donne de base.
Et il y a une cadence aussi du pas où, à deux, ça doit être encore peut-être plus précis à suivre pour justement éviter ces vibrations qui pourraient, comme celles qu'on peut imaginer sur un défilé, sur un pont, semble-t-il, qui provoqueraient des ondulations sur la structure. Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi sur le câble du funambule?
Alors, Oui, il y a cet aspect-là. Après, on y travaille dans le spectacle, on s'en parle dans le spectacle, et tout l'intérêt est d'arriver à ramer un peu plus vite que le courant dans ces moments-là. Voilà.
Il y a le souffle, hein, parce qu'il faut tenir et monter. Et le souffle qui est aussi guidé par le texte lors de cette montée. Comment s'effectue ce travail avec la personne qui vous accompagne d'ailleurs, qui n'a jamais pratiqué? Il y a une préparation en amont qui est variable en fonction des personnes peut-être?
Oui, j'ai pas trop de réponses parce que ce serait un peu chercher un mode d'emploi ou au moins le sien. Et j'essaye de pas le chercher pour moi ni pour mon partenaire. C'est moi qui ai proposé à Anthony de monter sur un fil. Du coup, je suis un peu responsable de notre, on va dire, conditionnement à monter sur le fil. Et j'essaye que ça en soit pas un, justement. Moi, je travaille beaucoup tous les matins, je ne travaille pas sur le fil, je travaille en dehors du fil, sur d'autres petits objets, je travaille peut-être une heure ou deux, enfin non, c'est pas peut-être, je travaille une heure ou deux tous les matins, pas forcément avant un spectacle, enfin, qui est spectacle ou pas spectacle, c'est un temps que je prends pour moi. Après, il y en a qui font rien et qui s'en sortent tout aussi bien. Du coup, c'est pas la réponse non plus que de travailler. Il faut être en place, empilé au bon moment, à un instant T, et chacun se débrouille comme il peut, comme il veut pour ça. Voilà.
Je vois pour le programme du théâtre, il y a vous, la personne qui sera accompagnatrice, mais il y a, vous êtes au total 5 personnes hein, sur ce site. Que produisent-elles elles-mêmes de par leur présence ?
Alors, on est 2 comédiens, 2 non-funambules, j'aime bien dire, parce que tout le but est de chercher sa limite, donc de pas de ne pas savoir faire, mais d'aller dans sa limite. Donc, on est 2 à monter sur le fil. Mais à côté de ça, il y a 2 régisseurs qui ont vraiment la fonction de régisseur, mais qui sont au plateau en tant que régisseur pour faire du brassage à vue, on va dire, du brassage de régisseur qui... Donc ça va de faire un feu de camp à organiser tout l'espace, à nous soutenir aussi durant la montée et être pas loin si jamais il faut retendre des choses, à nous parler s'il faut nous rassurer. Et à côté de ça, il y a une 5e personne qui est l'ingénieur son, qui est très important dans une pelle parce que le public est installé au milieu d'un dispositif sonore, au milieu d'un petit cercle d'enceinte. Et c'est pour ça qu'il y a une jauge limitée dans une pelle. Il y a 230 personnes maximum qui... parce que les gens viennent vraiment s'installer au centre de ce dispositif pour profiter au maximum de nos voix, de tout ce qu'on a à dire, que ce soit nous deux sur le fil ou que ce soit les 2 régisseurs, donc de nous 4.
Et puis de voir le paysage également.
Également.
Le funambule, donc, c'est une activité qui vous a pris assez tôt. Vous êtes passé par une école de cirque. J'imagine que vous avez pratiqué d'autres disciplines dans le domaine du cirque avant d'aboutir à celui de, peut-être ou pas, hein, mais de pratiquer au moins le funambulisme.
Alors oui, moi j'ai fait, j'ai une formation cirque. Vous parliez de théâtre et de danse, et bien sûr, ça fait partie de la formation de l'artiste de cirque aujourd'hui. C'est essentiel et c'est une très bonne chose. Mais dans mes spectacles, dans mon parcours, je revendique le 100% cirque, c'est-à-dire que je ne suis en rien ni musicien, même si je joue de la musique, ni comédien, même si je parle, ni danseur, même si je bouge. Je suis artiste de cirque 100% et oui, j'ai une formation cirque. Moi, j'ai commencé le cirque tôt, par loisir, par envie, et doucement, j'ai dérivé, c'est doucement après bac, après bac, j'ai dérivé assez brutalement, en fait. Mais bref, j'ai eu mon bac et après, j'ai fait des écoles de cirque. J'ai eu d'autres disciplines, comme je suis sorti, j'ai fait 4 ans d'école de cirque à Marseille et j'étais porteur sur vélo acrobatique dans un quator. Et après, en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui me branchait et tout ce qui m'avait branché sont les disciplines, les équilibres sur objets, sur différents objets, que ce soit sur des mains ou se mettre en équilibre sur une chaise, sur une échelle, sur une pelle avec des skis, sur un fil, sur un vélo, voire porter des gens pour les mettre en équilibre sur moi. Tout ce qui m'intéresse autour du cirque, c'est vraiment tout ce qui a rapport à l'équilibre. Alors des fois, on me demande pourquoi. On peut chercher à psychanalyser ça, mais j'en sais rien. Peut-être que c'était l'endroit où j'étais pas bon et où je cherchais un équilibre justement. En tout cas, c'est un endroit qui, moi, depuis tout petit, m'a tout de suite attiré et... Il se trouve que ça a commencé par le fil. Ce spectacle est le premier spectacle depuis 20 ans où j'ai réinséré le fil, réintroduit le fil, parce que par la force des choses, je voulais retrouver cet objet-là. Alors que paradoxalement, c'est un objet que j'aime pas du tout en spectacle, qu'en général je trouve assez moche, qui prend trop de place, sur lequel on s'appuie trop en tant que comédien, acteur, et du coup qui se met à prendre tout l'espace et tout le propos et on perd nos intentions. Voilà, donc c'est un peu une tentative que de réintroduire le fil dans mes spectacles.
Il y a cet aspect de campement aussi, comme décor, cette tente, avec peut-être ce feu qui sera alimenté pendant le spectacle. Qu'est-ce que ça peut recréer, justement, cet aspect-là ? C'est se positionner dans la nature, si l'on peut dire, ou alors... C'est se couper de quelque chose.
Alors non, je crois que oui et non. Oui, ça peut être ça, ça englobe ça. C'est juste pour marquer la prise d'élan, ce conditionnement à monter sur un fil qu'on... Voilà, on monte un instant T pour le moment du spectacle, mais c'est tout un conditionnement qui se passe avant. Depuis l'avant-veille, on est en tente sur le terrain, on monte cette structure, il y a ce feu sur lequel on peut aussi cuisiner, on peut aussi se chauffer, se rassembler, et qui sert aussi à rassembler le public. Mais c'est juste un conditionnement. Et bien sûr, c'est pas anodin. Il y a une certaine naïveté là-dedans, comme on le traite. Mais oui, je pense que c'est évocateur et que ça peut parler à différentes personnes, aux différentes personnes, sous différents aspects, dont la nature, dont l'expédition, dont la montagne, dont plein de choses. Mais on essaye de laisser les possibles ouverts et que chacun fasse son histoire. Voilà.
Tout à l'heure, vous parliez donc d'équilibre. C'est une approche que vous avez pratiquée sur d'autres spectacles. Un soir chez Boris ou l'Ouest loin. Il y avait aussi l'humour, peut-être, en plus de l'absurdité, peut-être des situations parfois.
Alors, c'est ce qu'on me renvoie des spectacles. C'est pas ce que j'y cherche. Je suis ravi que ça soit traité, que ce soit vu sous forme d'humour ou d'absurdité. C'est des formes qui me plaisent à chaque fois beaucoup. Enfin, c'est des quand ça tombe là-dedans. Mais comme je disais avant, j'essaye moi de ne pas induire sur la manière de lire le spectacle. J'essaye que mon intention soit la plus propre, la plus claire possible, et donc de la creuser, de la recreuser, et de continuer à chercher ça, cette intention, pour que les gens la voix et que ce soit clair. Après, ce que j'aime là-dedans, c'est que ce soit sur le fil. Le cirque, j'essaye de traiter le cirque de plein de manières. C'est-à-dire qu'à un moment, je fais des reprises de chansons, on parle. Et si on fait une reprise de chansons, il faut que ce soit du cirque, on n'est pas à un concert. Si on fait du fil, c'est du cirque. Si on parle, si on dit un texte, les textes sont du cirque. Il y a une tentative. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'on essaye de se mettre dans des limites. On essaye de chercher les limites, de ne pas les repousser surtout. Ce n'est pas du tout mon but de montrer que je repousse des limites. Ça ne m'intéresse pas, plus en tout cas. Et c'est vraiment de chercher une limite et de la partager avec le public pour faire du lien. Et de cette recherche de limites, en général, naît ou on tente de faire naître un vertige. Ça peut naître avec un texte, ça peut être une reprise de chanson qui est reprendre Johnny Hallyday ou n'importe quoi, la chanson populaire, la notion de populaire est une notion qui nous est très chère dans Une Pelle et dans les autres spectacles. Et on aime quand ces limites sont approchées, quand elles sont partagées et quand il y a un vertige qui s'en dégage. Après, il se trouve que ce vertige, ce fil sur lequel on marche tous, où on tente tous de marcher avec les publics, des fois ça tombe d'un côté, des fois ça tombe de l'autre et on y remonte. Quand on y est, on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Des fois ça tombe sur l'humour, des fois ça tombe pas sur l'humour. Et c'est vrai que chaque moment du spectacle peut se vivre d'une manière très différente d'une fois à l'autre. Alors voilà, dans tous les spectacles, je crois qu'il y a cette recherche du fil. Du fil sur lequel, de cet endroit, cette petite crête qu'on cherche avec les spectateurs. Après, je suis ravi que des fois, ça tombe du côté de l'humour. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est quand il y en a qui voient ça comme de l'humour et d'autres qui voient ça comme de la tristesse. Et ça me plaît beaucoup, pas quand ça divise les gens, mais quand chacun a la liberté de vivre ce qu'il a envie de vivre.
Parfois de la tension aussi.
Tout à fait. Des fois de la peur, des fois il y en a qui n'ont pas peur. Et les gens le vivent chaque fois d'une manière différente. Et cette manière d'être libre, pour moi, fédère les gens plus que de leur imposer à tous la même vision des choses.
Cette activité donc de funambule impose une présence à 100% hein, sur ce fil, avec ce balancier, et d'autant plus avec une personne au dos. À quel moment intervient le texte? Est-ce qu'il sort de lui-même, ou alors il lui faut peut-être un espace à ce moment-là?
Eh bien, on a créé des espaces de texte et en fait, les deux. Le texte sort de lui-même parce que les espaces sont créés autour de ça. L'origine du texte était vraiment de nous aider à faire circuler les choses. C'est vrai qu'il y a un peu ce fantasme autour du funambule. Ça vient peut-être de Jean Genet qui a écrit un livre, Le Funambule. Un fantasme sur le fait que le funambule doit être dans son acte même. Voilà, des philosophes tels que Deleuze, Nietzsche ont pensé ce genre d'acte. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je pense souvent à d'autres choses quand je suis sur le fil. Peut-être que la chose la plus importante, comme je disais, c'est de se laisser traverser, pas d'être à 100% là-dessus. Et peut-être que de se laisser traverser, c'est d'être à 100% là-dessus au final. Donc, peut-être, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, la parole, elle nous aide à tenir, et ce que je disais, être transitif, justement, à ne pas retenir les choses, à ne pas chercher à imposer une image. Le fait de parler, et d'être, ça nous permet de nous reposer, de nous poser, de nous ancrer dans les corps, mais aussi de laisser libre cours aux pensées, aux choses, même si le texte est écrit, il n'est pas improvisé, mais il y a l'ouverture au spontané. Tout le but de ce texte, c'est d'ouvrir au spontané de nos corps, au spontané de nos pensées, au spontané de nos émotions, et de les partager avec les gens.
Cette image m'a fait penser peut-être à Orphée et Eurydice. Est-ce qu'il y a un peu cette pensée pour ce spectacle ou ce travail du funambulisme, d'autant plus que c'est à deux personnes?
Mais le funambulisme, comme le cirque, c'est ce que j'aime dans cet art populaire qui, des fois, on se demande même si c'est un art, a quelque chose de très archétypal. Et du coup, forcément, tous les archétypes peuvent y passer. Et Orphée et Eurydice y ont droit aussi. Et c'est tant mieux, j'en suis ravi. C'est pas un axe de notre travail, mais c'est vrai que quand on me le renvoie, j'en suis ravi. J'en suis touché. Parce que quand ça peut faire appel à des notions archétypales, et ben voilà, c'est un beau cadeau. J'aime beaucoup toutes ces notions-là. Mais c'est vrai que je ne cherche pas à les faire apparaître, parce que je sais que le cirque est assez puissant pour les faire apparaître de lui-même. Il n'a pas besoin de moi, le cirque, pour faire apparaître ce genre de notions.
Il y a ce spectacle, donc, et on a parlé brièvement, enfin, on a présenté brièvement Un soir chez Boris et L'Ouest loin. Quels sont les points communs entre ces trois spectacles?
La recherche d'un fil. La recherche, comme je disais, de que chacun puisse vivre à sa manière un spectacle et qu'on ait cette liberté de vivre à sa manière un spectacle. J'ai du mal à dégager après les spectacles, même avant j'ai du mal à dégager. En général, je ne pars pas ni d'une idée, je pars d'intention pour les spectacles. Dans Un soir chez Boris, ce qui se dégage, selon moi, de ce spectacle, c'est comment se fabriquer une solitude au milieu de 100 personnes. Quel est le besoin qu'on a tous de se fabriquer notre solitude au milieu des autres, de monter ses propres murs. Et c'est ce qui se passe dans Un soir chez Boris. C'est quelqu'un qui est sous une yourte, donc moi, avec 100 personnes, et je fabrique ma solitude. Dans L'Ouest loin, c'est comment je dérive dans mes pensées et effectivement comment je me crée mes paysages. Et peut-être ça rattrape une pelle à cet endroit-là, mais dans une pelle, on fabrique nos solitudes aussi. C'est peut-être ce qui fédère aussi, d'ailleurs. Voilà.
L'Ouest loin, ce titre a un sens précis?
Alors, tous les titres, c'est de la même manière dont je monte les spectacles. Pour moi, un titre doit être beau en soi, et pour moi, ils le sont. C'est pour ça que je les ai choisis. Ils sont choisis de manière intuitive. Donc, L'Ouest loin, bien sûr, vient du Far West, on l'aura compris, de cette traduction littérale de Far West. Mais oui, ça développe toutes ces notions de fantasme. Fantasme qui peut être très souvent masculin, de conquête, de bêtise de conquête, de beauté de conquête. Et L'Ouest loin travaille autour de tout ça. Voilà, Un soir chez Boris fait bien sûr référence à Ce soir chez Boris, c'est soirée disco, parce que c'est un spectacle qui est truffé de références, comme le sont d'ailleurs tous les spectacles. C'est de la référence, de la référence, de la référence, peut-être pour chercher cette solitude. Et cette solitude, avec cette référence par-dessus, appelle les gens. Enfin, c'est une tentative d'appeler les gens, pas de les éloigner. Et j'ai la sensation que ça peut marcher.
Il y a actuellement un projet sur lequel vous travaillez, c'est celui d'une médiation culturelle. Est-ce qu'on peut peut-être décrire sur votre site, d'ailleurs, il y a une petite vidéo d'une vingtaine de minutes qui présente un peu cette activité, qui s'adresse à des jeunes, notamment en insertion ou en réinsertion. Est-ce que, justement, ça leur permet de pouvoir être dans cette mise en danger et de pouvoir en surmonter les difficultés?
Alors, c'est un projet qui s'adresse sur le site, effectivement, de la compagnie d'un ours. C'est un projet qui a été monté, pour le coup, avec des jeunes en réinsertion. Mais ça s'adresse à tout le monde. Ça peut s'adresser à n'importe quel groupe de personnes. C'est un travail de médiation culturelle, effectivement. Et je dis avant tout que c'est un travail d'écriture, pour partager notre empreinte d'écriture, comment nous, on écrit. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on monte le fil et j'emmène des gens derrière moi sur le fil avec un micro et on parle. Et le reste du groupe attend en bas dans la bulle sonore avec un auteur de chez nous et on restitue la parole et on fait passer tout le groupe comme ça. Et au fur et à mesure qu'on prend de la hauteur, non longé, non sécurisé, bien sûr on ne prend pas de risque, c'est beaucoup plus bas, on ne monte pas à 10 mètres de haut, on va peut-être monter à 1,50 m, on est des fois monté à 3 mètres quand on le sentait bien, mais c'est du temps, c'est de la répétition, ça se fait sur plusieurs jours, et en gros c'est comment le vertige vient inscrire quelque chose dans notre parole et dans notre écriture, et comment on écrit ça dans la répétition, parce qu'on fait plusieurs passages au fur et à mesure des jours, et on cherche à pas fixer quelque chose, mais à développer quelque chose dans chaque passage. Et donc, c'est un travail d'écriture autour du cirque et du vertige. Voilà.
Il y a cette parole, justement, qui est exprimée en étant sur le fil. Elle s'entend, vous l'entendez également. Est-ce qu'il y a une osmose avec aussi l'oreille interne qui permet de savoir si on est en équilibre?
Alors, on l'entend, mais pas forcément, parce que ça dépend du vent, en fait. Quand le vent est dans le bon sens, on l'entend. Quand il n'est pas dans le bon sens, on ne l'entend pas. Des fois, on a même du mal à entendre son partenaire. Donc là, effectivement, on parle plus fort. Mais non, faut pas pour moi. L'équilibre ne se tient ni avec le son, ni avec le regard. On l'apprend souvent avec le regard. Pour moi, il se tient vraiment avec le corps, l'intérieur du corps, c'est-à-dire les sensations intérieures. Voilà.
Le texte, justement, vous dites, vous avez vos propres auteurs. Vous-même êtes auteur de ces textes?
Alors oui, je suis auteur de ces textes. Je suis auteur de ces textes tout en empruntant beaucoup de partitions, de choses, de mots à d'autres gens, que je cite ou pas. En tout cas, je les emprunte librement, c'est-à-dire que je ne cherche pas à les restituer de manière fidèle, mais c'est plus la réminiscence de la pensée qui m'intéresse. Mais oui, c'est moi qui écris, mais qui fais aussi une composition, un patchwork avec tout le travail de plateau qui s'est passé. Donc en fait, tous les quatre au plateau sont aussi auteurs, partie prenante du spectacle. Et c'est vrai que c'est moi qui ai fait les collages, les coupages, le montage de tout ça. Donc qui fait que peut-être ma part d'auteur à cet endroit-là était plus active.
On peut peut-être les citer, hein, ses partenaires. Donc, il y a Anthony Brerec, Thiel Sutti, Michael Phyllis, Chloé Levroy, en alternance avec Sonia Virli. Donc, elles s'interchangent la régie et le plateau.
Hein, exactement, oui.
Elles-mêmes, ces personnes sont issues aussi du cirque ou alors elles ont d'autres compétences?
Non, ils sont tous issus de leurs compétences propres, c'est-à-dire Michael Phyllis, qui est le régisseur historique de la compagnie avec lequel je travaille, est issu de la régie. Chloé Levoix et Sonia Virli sont issus du son. Thiel Sutti est issu de la régie. Donc, c'est vraiment chaque... Et Anthony Brerec, pardon, est comédien, issu du théâtre. Après, il n'est pas là en tant que comédien, il est vraiment là en tant que partenaire de marche, ce qu'il fait très très bien. Mais oui, chacun réussit de son propre terrain et y reste. Chacun déroule sa propre partition.
Il y a aussi le coach Funambule, ça c'est nécessaire pour vous certainement, mais aussi pour les personnes qui accompagnent, pour pouvoir les rassurer, les guider aussi, et qui s'appelle donc Mathieu Hibon.
Alors Mathieu Hibon, oui, il est intervenu pendant la création, parce qu'il se trouve que effectivement ça faisait 20 ans que j'étais pas remonté sur un fil avant cette création, Anthony n'étant jamais monté sur un fil. Un fil, c'est quelque chose de très technique, que ce soit à monter, à appréhender, même si j'ai cette, on va dire, expertise en équilibre, le fil reste quelque chose avec lequel qu'il faut aborder très humblement, parce qu'il peut y avoir plein de pièges, et il y en a même quand on le connaît très bien, ce qui est loin d'être mon cas. Donc oui, j'ai vraiment alors que ce soit Mathieu ou d'autres, je vais vraiment piocher, vérifier mes informations, vérifier mes sensations auprès de gens, dont Mathieu Hibon, qui est un funambule, un bon funambule.
Compagnie d'un ours, c'est un titre approprié pour vous, justement, autour de cette notion de la solitude.
C'est pareil que le reste des titres, on pourrait broder. Pourquoi, d'où c'est né Compagnie d'un ours? Il y a le D apostrophe, bien sûr, qui fait que ce que j'aime dans ce D apostrophe, c'est qu'on y voit une patte. Moi, j'y vois une patte d'ours se coller un peu comme un tampon, plus que si on avait mis Compagnie un ours. On aurait vu un ours, moi j'y vois la patte d'un ours. Et c'est ça qui me plaît. Et oui, il y a ce rapport au sauvage, ce rapport à cet animal, tout en qui évoque différentes choses pour tout ce qu'il évoque. Oui, voilà.
Compagnie d'un ours a son site internet que l'on peut visiter, avec aussi la présentation des spectacles antérieurs et illustrés. Et puis, on peut aussi se rendre sur le site du Théâtre Désert pour connaître votre programmation et les horaires, et aussi pour certainement acheter au niveau de la billetterie également.
Tout à fait, oui, il faut réserver. C'est un spectacle sur lequel il faut réserver absolument. Voilà.
Eh bien, Olivier de Belloir, merci bien d'être venu sur Herdivois.
Merci
pour
Yves.
Venir nous présenter votre spectacle Une Pelle.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Just a perfect day. Drink wine in the park. Then later, when it's dark, we go home. Yeah. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and we go home. Oh, yeah, a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging. Just keep me hanging on. Oh yeah. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekends on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, even someone good. Just a perfect day. I'm glad you sow, don't you know? Hey, you're gonna reap just what you sow. Hey, don't you know? Oh, you're gonna reap just what you sow. Oh, glad to know. Just what you sow. Don't you know?